Bonsoir, c'est Onde Noire. Bienvenue dans l'émission Polar, la plus rock de la bande FM. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir à tous.
Eh bien, au sommaire de cette émission, nous allons commencer par accueillir Michel Pedinelli dans quelques instants pour parler de son dernier roman qui est sorti il y a très peu de temps. Et puis, dans la deuxième partie d'émission, nous allons vous parler de plusieurs romans, trois, quatre, qui ont beaucoup, beaucoup retenu notre attention ces derniers mois. On voulait dédier cette émission à un ami, quelqu'un qu'on connaissait depuis plus de 20 ans et qui est disparu il y a quelques jours, c'est Philippe Carrez. Alors Philippe Carrez, au niveau du roman noir, on n'en parlait plus beaucoup puisque ça faisait quelques années qu'il avait délaissé cette écriture de roman noir, mais il nous avait amusés et intéressés avec ses premiers romans noirs qui datent des années quand même 2000.
Ouais,
2000. Oui. Filet garni, voilà.
Trois jours d'Angade.
Et puis après, le clan des... Les Veuves Gigognes, voilà. Donc, beaucoup de romans noirs et puis des romans qui sont parus aussi aux éditions de l'Aube. Il était aussi réalisateur, il faisait des merveilleux petits dessins sur sa ville préférée qui était Marseille.
Il a même fait un film de cinéma qui s'appelle Casso, ce qu'on espère bien voir un jour sur FR3 qui était sa chaîne. Donc.
Oui, puisqu'il était réalisateur à FR3. Donc voilà, on lui dédie toute cette émission et puis j'espère qu'on parlera de lui souvent, ça fera qu'il ne sera pas complètement disparu. Mais pour le moment, on va accueillir Michel Pedinelli. Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Nous parlions que nous dédions cette émission à Philippe Carrez. Je crois que vous l'avez rencontré.
Oui, je l'ai rencontré en fait l'année dernière à Marseille dans une soirée de remise de prix. Et il y a toujours un moment un peu protocolaire, un peu chiant pour tout dire, hein, quand il y a des discours et des discours et des discours. Et j'étais à côté d'un monsieur comme ça.
Puis des uniformes aussi.
Il y avait des uniformes, oui. Oui, parce que c'était à l'archevêché de Marseille, donc la PJ. Et donc il y avait ce monsieur à côté de moi et puis on regardait la scène et puis on a commencé, je sais pas si c'est lui ou moi, a commencé à envoyer une petite vanne comme ça pour tâter le terrain, puis l'autre a répliqué et puis en fait on a passé bien trois quarts d'heure à se bidonner vraiment. Enfin ouais. Moi j'ai passé une soirée magnifique. Je ne savais pas qui c'était. Je voyais ce monsieur qui avait une caméra qui a filmé plein de choses et puis après il s'est présenté. C'était super sympa. J'ai appris qu'il était en fait que un de ses derniers romans là était publié chez le même éditeur que moi. Voilà, et qui s'appelle Une histoire de l'humanité, tome 1 et fin. Donc c'est dire l'humour du personnage et voilà, j'en garde un souvenir extrêmement drôle, enfin voilà, d'une soirée très réussie en grande partie grâce à lui, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il était très drôle et aussi plein de tendresse pour ses personnages aussi bien que pour les gens qui l'entouraient. Mais on est là pour parler de votre dernier roman qui vient de sortir justement aux éditions de l'Aube dans la collection L'Aube Noire. Alors, le premier Boccanera a été sorti il y a un peu plus d'un an, en février si je ne m'abuse. Après Les Chiens, ce deuxième est sorti début mai et on va retrouver Dieu. Toujours la même, mais un petit peu différente. Alors pour moi, c'est vraiment un personnage réel que je peux croiser dans la rue, Diou. Et je trouve qu'elle a un petit peu évolué. Voilà, de roman en roman, on sent que, voilà, du premier au deuxième, toujours aussi énergique et tout, mais elle a quelques mois de plus.
Oui, elle a quelques mois de plus, et puis peut-être qu'elle a un peu plus d'introspection. Elle parle un petit peu plus d'elle, ou du moins de sa famille en particulier, ouais. Ou de ses racines, ou des gens qu'elle aime, des gens qu'elle côtoie, les gens qui sont morts aussi, qu'elle a aimés, et auxquels elle pense quotidiennement ou par rapport à accès de par fulgurance ou bien pendant ses rêves quand ils viennent la grande visite dans ses rêves. Donc peut-être qu'elle a pris une autre je dirais pas épaisseur mais peut-être une autre dimension parce qu'elle parle un peu plus d'elle et un peu plus de son passé, un peu plus de ses racines, un peu plus de son essence, quoi.
Ouais, elle est un peu plus, voilà, un peu plus faite de chair et d'âme. Tout commence dans ce roman avec Scorsese. Et oui, on est au lendemain du début du Festival de Cannes, on devait évoquer Scorsese. Donc, racontez-nous un petit peu juste le début.
Oui, en fait, Scorsese il est poilu. Bah, tout le monde sait, hein.
Il est bien poilu, oui.
Voilà. Et donc, en plus, il a des poils qui ne savent pas dans quel sens retomber collectivement. Donc, ça parle un petit peu dans tous les sens. Et puis, Scorsese a une petite langue rose. Et en fait, Scorsese réveille Dieu tous les matins, très très tôt le matin, depuis 15 jours, parce qu'en fait, c'est un gentil petit chien, un gentil petit bâtard que ses copines lui ont confié pendant qu'elle partait en vacances. Et donc, tous les matins, le chien lui lèche la poire, et elle se sent finalement obligée de sortir ce chien, elle est un petit peu obligée, et donc elle court avec lui, elle va au Montboron à Nice, sur la colline du Montboron, dans le massif forestier du Montboron, pour sortir Scorsese, pour le non pas en laisse, parce qu'on ne tient pas Scorsese en laisse, hein, voilà, mais Scorsese a une espèce de rayon de dépendance, hein, il sort pas trop de ce rayon-là, et donc il court avec elle sur les sentiers du Montboron le matin, très très tôt.
Et donc, en courant, on va pas dévoiler l'histoire, on va pas faire du spoiler, mais aidé de Scorsese, va découvrir le corps d'un jeune homme.
Oui, tout à fait.
Qui va vite se révéler. Je vous laisse dire la suite.
Oui, en fait, c'est un jeune homme qui est qu'elle découvre, qui est roué de coups, donc qui a été passé à tabac. Et c'est un jeune homme dont elle va découvrir que c'est un jeune érythréen. Qui est arrivé à Nice. Et en fait, on retrouve un personnage du premier tome qui s'appelle Ferdi, qui est le SDF muet et allemand, et qui a côtoyé ce jeune homme. Et quand il apprend sa mort, en fait, missionne Dieu pour découvrir qui c'était, pour lui rendre une identité à ce jeune homme mort si loin de lui, parce que Ferdi pense que quelque part il y a une famille qui attend de ses nouvelles, qui veut savoir ce qui lui est arrivé. Donc comme la police va prendre en charge l'enquête officielle pour retrouver le meurtrier, puisque meurtria, Dieu va se concentrer, elle, sur remonter aux racines et encore une fois, et retrouver en fait l'identité de ce jeune homme mort ici.
Voilà, retrouver son identité et lui redonner peut-être un peu de dignité.
Oui, lui redonner la dignité dont il a été privé pendant tout ce voyage. Ce voyage tellement dangereux, tellement inhumain que les réfugiés qui se retrouvent à Vintimille, parqués là sous le pont à Vintimille, à côté de chez nous, connaissent tous, parce qu'en fait tous ceux qui partent de chez eux partent contraints et forcés, font des milliers de kilomètres dans des conditions absolument inimaginables et traversent des horreurs. Enfin, je pense que il traverse toutes les horreurs auxquelles on peut penser, il les traverse, et même pire, des choses qu'on peut même pas imaginer. Et ils échouent souvent en Libye, et la Libye, c'est l'enfer, c'est même un euphémisme de dire que c'est l'enfer. Et ceux qui en réchappent, finalement, ceux qui réchappent à la traversée de la Méditerranée sur des bateaux pourris, qui ne se noient pas, qui ne finissent pas dans un naufrage, arrivent en Italie, souvent en Sicile, remontent et se retrouvent bloqués à Vintimille dans des conditions dantesques, si je puis dire, pour un camp italien, et essayent de franchir cette frontière, en fait, cette frontière franco-italienne qui est en fait au cœur du bouquin. Voilà, c'est vraiment l'histoire de franchir des frontières.
C'est métaphoriquement, on va franchir plein de frontières, parce que Dieu va quitter Nice, ce qui ne lui était pas arrivé, me semble-t-il, dans Bocanera. Mais bon,
elle s'aventure très 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 loin quand même, parce que elle va aller jusque dans la vallée de la Roya.
Voilà, elle va aller
près de 60 kilomètres.
Voilà, elle va aller à Breil-sur-Roya, rencontrer des gens qui ont certainement ou pas, accueilli le jeune migrant. Et là, il y a les histoires de frontières, parce que Breil-sur-Roya, ça rappelle d'autres vallées. Et entremêlé dans le récit, on va voir les pages d'un journal d'une autre personne qui était aussi dans une vallée de l'arrière-pays de Nice et qui, lui, était pendant la Deuxième Guerre mondiale quelqu'un qui a aidé à faire passer des jeunes ou des plus anciens, mais des juifs.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai voulu entremêler. Donc il y a une histoire qui commence en septembre 1943, à la chute de Mussolini, parce que jusqu'à présent il y avait jusqu'en septembre 1943 l'occupation, c'était de l'occupation de l'armée italienne hein, de tous les Alpes-Maritimes jusqu'à Marseille d'ailleurs. Et la particularité était que les Italiens ont été très corrects vis-à-vis des Juifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais poursuivi les Juifs. Alors ils ont poursuivi les communistes, ils ont poursuivi les antifascistes, ils ont laissé les Juifs tranquilles à Nice. D'ailleurs, les Allemands appelaient Nice la ville du crime, justement parce que les Juifs avaient pu s'y réfugier. Et quand Mussolini tombe, immédiatement les nazis arrivent, et c'était Aloïs Brunner qui dirigeait, qui était le commandant à Nice. Et ceux qui ont lu Un sac de billes de Jouffaut se rappellent de ces épisodes terribles. Donc la répression est féroce et violente et là encore inhumaine. Et donc il y a des, ben voilà, à ce moment-là, pour les Juifs, il faut franchir la frontière dans l'autre sens, c'est-à-dire passer de la France vers l'Italie. Pour ensuite espérer trouver refuge en Italie, surprendre un bateau et traverser la Méditerranée dans l'autre sens, ou partir vers l'Angleterre. Et en fait, je voulais vraiment parler, sans faire, je ne compare pas les gens, les passeurs pendant l'occupation, avec les, je ne les mets pas au même niveau que les gens dans la vallée de la Roya qui vont aider les réfugiés, parce que les peines encourues sont pas les mêmes. Je veux dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, on risquait jusqu'à la mort pour avoir aidé des Juifs. Là, je veux dire que les amis de la Roya sont harcelés judiciairement et
ils passent au tribunal régulièrement. Policiers.
Voilà, ils passent très très régulièrement au tribunal. Ils sont tout le temps condamnés, mais je veux dire, ils ne sont que condamnés à des sanctions en général financières, voilà. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais en tout cas, ce sont des passeurs. Ils sont considérés comme des passeurs, comme on appelait des passeurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il s'agissait vraiment de faire franchir... Enfin, c'est toujours le même problème, c'est que franchir une frontière, c'est vital. C'est vital dans un sens comme dans l'autre. Les gens ne quittent pas leur pays, les gens ne se font pas des violences terribles à traverser des montagnes en hiver. Aujourd'hui, à notre époque, y a des gamins en tongs qui franchissent la montagne, quoi. Hein, On fait pas ça par désir de découvrir un pays ou pour venir piquer des allocations. Voilà, on est poursuivi par une guerre, par une famine, par une situation monstrueuse qui pousse à fuir, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et cette frontière franco-italienne a été franchie dans les deux sens depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. C'est pas nouveau, en fait.
Et quand je disais que c'était un roman sur les frontières, en fait, c'est parce que dans ce roman particulièrement, on sent aussi la frontière très nette que vous mettez quand même entre, je dirais, les bonnes gens, ouais, les honnêtes hommes, au sens peut-être voltairien du terme, et les infâmes salauds, hier comme aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est parce que finalement, le titre Après les chiens, voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que pour moi, alors j'adore les chiens, hein, d'ailleurs, le petit Scorsese du début, je l'aime beaucoup, hein, mais si on le prend métaphoriquement, le temps des chiens, c'est le temps où les hommes se comportent en meute. Se comportent sous l'influence d'un maître qui va les pousser à, en général, attaquer les plus faibles. Il y a, voilà, une meute qui attaque, c'est jamais très joli. Et en fait, quand ce temps-là, quand ces époques-là arrivent, avec des degrés divers, mais elles arrivent toujours, c'est intéressant de voir comment les gens se positionnent et surtout quels actes ils commettent à ce moment-là. Donc effectivement, il y en a qui vont tendre une main, il y en a qui vont détourner le regard, il y en a qui vont enfoncer le clou, voilà. Et voilà, c'est vrai que cette frontière-là, pour moi, elle est importante. Je dis pas qu'on fait toujours des choses bien dans la vie, voilà, mais pressé par cette nécessité, enfin devant cette situation, quand il y a vraiment des histoires de vie ou de mort, enfin c'est pas pour rigoler ou c'est pas voilà, comment est-ce qu'on se positionne?
Et justement, la frontière, elle est un peu, pardon.
Je vous en prie.
C'est vous qui êtes malade et c'est moi qui tousse. La frontière, elle est aussi par Dagmar. Dagmar, ouais. Une étrangère. Ouais. Dagmar qui s'occupe de chiens, d'êtres humains, mais de chiens.
Oui. Dagmar, c'est une veto. Donc, c'est une Suédoise. C'est une amie de Dieu, une amie d'enfance. Elle est vétérinaire. Elle adore les animaux. Peut-être même parfois plus que les humains, finalement. Et elle est un peu paradoxale parce que cette femme qui aime les animaux, qui est capable de fondre de tendresse devant des animaux et devant sa compagne, puisqu'elle est en couple avec une autre femme qui s'appelle Clara. Dagmar, par contre, est tout à fait pour le port d'armes à la Donald Trump, quoi.
Ah oui.
Elle est très, elle la dérange pas du tout. Elle est membre d'un club de tir, elle adore ça, et elle ne comprend pas pourquoi en France on s'aligne pas sur les positions américaines. En disant, ben voilà, il faut que chacun doit défendre sa liberté, son intégrité avec une arme à feu.
Romande Frontière, pardon, excusez-moi, pardon, Michel.
Oui. Je vous en prie.
Romande Frontière aussi, par rapport à l'histoire de Mélodie. Mélodie qui est une jeune fille sans histoire, et tout d'un coup elle disparaît. Et là aussi, ouais. Métaphoriquement, elle va passer des frontières. Elle va passer des frontières idéologiques.
Exactement. Mélodie disparaît. On ne sait pas pourquoi, parce que vraiment, c'est une ado. Elle a eu 18 ans. Elle est lycéenne. Elle est sans histoire. Elle a plein d'amis. Et puis, elle disparaît du jour au lendemain. On ne sait pas. C'est une fugue. Hein, ça, on s'oriente vers une fugue, mais on ne comprend pas. Il n'y a aucune raison objective dans sa famille, parmi ses amis. On ne sait pas pourquoi elle a fugué. Et effectivement, donc l'adieu va être engagé par la mère de Mélodie pour retrouver cette jeune fille. Et c'est là où elle va découvrir que on peut franchir effectivement des frontières comme ça, parfois simplement parce que par amour.
Ouais.
Parce qu'on tombe amoureuse d'une personne qui n'est pas forcément une bonne personne et que du coup, par amour, on va suivre cette personne-là et effectivement franchir des frontières pas toujours très jolies avec elle.
Voilà, alors on ne va pas expliquer ce que va découvrir Dieu dans ses différentes histoires, mais ce qui est intéressant, enfin moi ce qui m'émeut toujours dans ces romans, c'est des personnages secondaires. Alors on va retrouver Dan, on va retrouver Lex, Jo,
ouais.
Pour qui elle craquerait bien encore un petit peu. Il y a Colette, il y a la compagne de Dagmar aussi, qui va beaucoup aider Dieu dans...
Ouais.
Qui l'a toujours aidée et qui oui. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir évoquer la grand-mère de Dieu, très beau personnage. Et puis j'en trouve toujours un encore plus émouvant que les autres. Et pour moi cette fois c'est Nadia.
Oui.
On va pas la croiser beaucoup Nadia, mais elle représente énormément de choses.
Alors voilà, en plus vous mettez toujours le doigt là où il faut. Hein. Nadia, c'est un personnage, c'est une jeune femme qui est trisomique et qu'elle va croiser comme ça et qui est en fait c'est un personnage, je me suis inspirée d'une cousine, voilà, qui s'appelait Katia, qui est décédée depuis quelques années et qui était voilà comme ça, c'est-à-dire une personne
Ah, alors on a perdu Michel. C'est bizarre, c'est parce qu'il est 30 peut-être. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais on va peut-être essayer de la rappeler parce que justement, j'avais un petit passage à vous lire à propos de Nadia, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié du personnage de Nadia, c'est la manière dont Michel décrit la première rencontre du Montrabareil sur Roya.
Tout en ellipse.
Voilà, tout en ellipse, sans rien dire, et c'est magnifique. Je cite, « La voix est légèrement suintante. Je me tourne vers la jeune femme. Elle a des cheveux châtains, tout fins, qui s'échappent d'un calot de papier blanc. Dessous, des petits yeux très étirés en amande, pétillants. Son visage est parfaitement rond et elle me sourit chaleureusement. » Michel, on s'est éloigné quelques secondes. Et pendant que vous n'étiez pas là, je lisais la manière dont vous avez présenté Nadia, où on commence à comprendre juste les quelques lignes, et puis la page d'après, vous dites d'elle, si cette jeune femme a un chromosome en plus, ce doit être celui de la gentillesse et de l'humour.
Oui, tout à fait, parce que vraiment, c'est... alors, je ne sais pas si j'ai été coupée à ce moment-là, mais je me suis inspirée de mes cousines.
Katia.
Et Katia, voilà. Et voilà, c'est quelqu'un qui était à la fois extrêmement gentil, même plus que gentil, je ne sais pas comment dire ça, plus que gentil, et aussi drôle, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait faire des petites blagues comme ça, quelqu'un comme Nadia qui aimait beaucoup le chocolat.
C'est ce que j'allais dire, elle aimait beaucoup les pains au chocolat.
Voilà, exactement. Et voilà, j'ai vraiment pensé beaucoup à elle en écrivant ce personnage, parce qu'il y a des gens comme ça, quand on les rencontre, on se dit que tout le monde devrait être comme ça. Enfin, je veux pas faire un peu les bisounours, tout ça, mais je veux dire, on manque tous de ce... C'est plus qu'une candeur, c'est une espèce de vérité, quand la joie est pure, la peine aussi, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de sarcasme, il n'y a pas de choses comme ça. Ma cousine Katia donc m'a inspiré ce personnage de Nadia. J'ai retrouvé aussi d'autres personnes et on se dit il nous manque tous quelque chose que Nadia a, je trouve. Et je pense que Dieu l'aime beaucoup pour ça, entre autres.
On va terminer, là il nous reste juste 2 minutes et demie. On va terminer parce que quand même Nice est un personnage important. Il y a des points de vue superbes. Il y a des balades, surtout vers le Mont Boron, quand Dieu va courir. Et il y a des points de vue superbes. Il y a des coins où on voit beaucoup la Méditerranée. Mais quand je parle de Roman de la frontière, c'est que la Méditerranée, elle devient justement une frontière terrible. Et cette magnifique mer du Méditerranée, il ne faut pas oublier maintenant que quand on la regarde, elle est pleine de cadavres.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le paradoxe. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours un enchantement de regarder l'horizon, de regarder vers le sud, de regarder le miroitement de l'eau. Et en même temps, à chaque fois, il y a quelque part, je me dis, mais c'est un cimetière. C'est un cimetière en permanence, c'est un cimetière en continu. Et c'est pour ça que voilà, Dieu commence par regarder et imagine quand elle nage dans l'eau, et c'est ce qui m'étreint aussi, c'est d'imaginer qu'il y a des gens dans cette eau, voilà, des gens qui ont, il y a des choses tellement terribles qui se sont passées, il y a des témoignages les témoignages des rescapés, il y a les sauveteurs qui sont d'ailleurs attaqués par Salvini récemment, maintenant ils vont avoir entre 3000 et 3500 euros d'amende par migrant secourus, on est au-delà de l'ignoble, et les sauveteurs qui découvrent ces enfants qui meurent en ayant un petit gamin qui avait cousu son bulletin de notes dans son manteau, parce que tout ce qu'il avait de plus précieux, c'était ses bonnes notes à l'école, et qu'il espérait bien pouvoir vivre grâce à ça chez nous.
C'est des histoires terribles. Michel, je suis obligée de vous interrompre, on arrive à la fin de notre émission. Merci infiniment. Donc, Après les chiens, aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, Michel Pedignelli. À bientôt.
À bientôt, Corinne.
Au revoir.